France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir, quel recrutement pour la haute fonction publique, quelle réforme pour l'ENA. Souvenez-vous, c'était en avril dernier, lors de la conférence de presse organisée par le président Macron, en guise de conclusion au grand débat suite à la crise des Gilets jaunes. Au détour d'une réponse, le chef de l'État annonçait la fin des grands corps de l'État et la suppression de l'École nationale d'administration.
Il faut supprimer, entre autres, l'ENA. Je ne crois pas, sur ce sujet, au rafistolage, à la réforme un peu. Ça a déjà été tenté par à peu près tous mes prédécesseurs. Non, si vous gardez les mêmes structures, les habitudes sont trop fortes, les habitudes sont là.
Emmanuel Macron, lui-même diplômé de l'ENA, a donc décidé de confier une mission de réflexion sur le sujet à un autre énarque, l'avocat Frédéric Thirier. Ce dernier vient de rendre ses conclusions. Elles tiennent en une quarantaine de propositions. Objectif affiché, une haute fonction publique plus agile, plus attractive et plus représentative, avec une diversification du recrutement. On verra ce que propose le rapport dans ce domaine. On verra aussi quelle est la réalité actuelle, car nous ne sommes pas tous, loin de là, des connaisseurs de ce cercle, somme toute assez fermés. Et puis, on évoquera aussi, si possible, cet autre rapport dont fait état le journal Le Monde ce soir, rapport rédigé par des élèves de l'ENA qui dénonce des cas de harcèlement et une inégalité entre les femmes et les hommes, comme quoi c'est la société tout entière qui est rattrapée par ces sujets. À nos côtés ce soir, l'auteur du rapport intitulé « Mission haute fonction publique ». Bonsoir Frédéric Thirier.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc énarque et avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. À nos côtés également Daniel Keller, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'Association des anciens élèves de l'ENA. Énarque, vous aussi, passez aussi par l'École normale supérieure.
Tout à fait.
C'est ça. Alors n'hésitez pas à nous appeler pour poser toutes vos questions à nos deux invités.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et tout de suite, un premier appel qui nous vient de Lyon. Lisa est en ligne. Bonsoir Lisa.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, on vous écoute.
Effectivement, on a actuellement des grandes écoles qui préparent nos futurs dirigeants, a priori. Le problème, c'est qu'actuellement, ces écoles sont des écoles qui sont hors sol, avec des étudiants plus ou moins jeunes, plus ou moins âgés, qui n'ont jamais réellement eu un travail, ou en tout cas n'ont jamais eu un travail réellement stable, avec par exemple une augmentation à négocier avec un patron, pas forcément dans de bonnes conditions pour pouvoir l'accorder, en général... C'est pas forcément évident, avec un budget à gérer, un budget d'un foyer, un écart qu'on aura pu faire pendant un mois, ça voudra dire qu'il faudra resserrer un petit peu les cordons de la bourse le mois suivant. Des reconversions à opérer, parce que actuellement on ne reste pas dans le même emploi toute sa vie. Donc reconversion, formation, repasser par la case Pôle emploi. Voilà, toutes ces écoles n'ont pas des étudiants qui font face à ces difficultés-là, alors qu'ils sont censés connaître tout ça pour pouvoir diriger un pays qui rencontre ces réalités-là. Donc comment est-ce que des étudiants qui font ces grandes écoles, qui sont censés après accéder aux sphères du pouvoir, aux sphères décisionnelles, mais qui ne connaissent pas la réalité d'un pays qu'ils sont censés... réformés, qui sont censés diriger, qui sont censés orienter vers des réformes.
Merci et, Lisa.
Voilà,
donc merci pour cette entrée en matière. Je crois qu'on a bien compris ce que vous reprochez aux jeunes qui entrent à l'ENA. Un grand merci Lisa à Lyon pour votre intervention. Frédéric Thirier, vous qui venez de signer ce rapport. Vous entendez ce que dit Lisa ?
Ce que dit Lisa est au cœur de mes préoccupations et au cœur du rapport que j'ai présenté il y a quelques jours au président et au Premier ministre.
Hors sol, quand elle dit ça, vous êtes d'accord sur le constat ?
Bon, soyons plus raisonnables dans les termes. Nous assistons aujourd'hui à un fossé croissant entre les Français et leurs élites. Pourquoi ? Parce que les Français ont le sentiment, à tort ou à raison, mais souvent à raison, comme le dit Lisa, que ceux qui nous dirigent ne sont pas assez proches de leurs préoccupations quotidiennes. C'est une situation dangereuse. Nous avons connu ces crises des élites dans l'histoire, avant 1870, en 1940. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour essayer de combler ce fossé. C'est pourquoi le cœur de mon rapport est là. Comment avoir une haute fonction publique désormais qui soit plus proche des préoccupations des citoyens est plus diverse.
Alors on va y revenir évidemment, revenir à vos propositions, Frédéric Thirier. Mais Daniel Keller, vous entendez vous aussi ce que nous dit Lisa? Est-ce que vous étiez d'accord avec d'ailleurs ce que demandait Emmanuel Macron d'y réfléchir?
Mais je répondrai à Lisa qu'aujourd'hui, entre ALENA, des hommes et des femmes de divers profils. Il y a des étudiants qui ont étudié et qui passent un concours, mais il y a aussi des hommes et des femmes, c'est le troisième concours, qui ont déjà une expérience dans la vie professionnelle, qui ont travaillé, pour parler comme Lisa, qui ont travaillé les mains dans le cambouis et qui viennent à ALENA. Il y a des fonctionnaires qui ont aussi de l'expérience professionnelle.
Ah, c'est le deuxième concours.
C'est le deuxième concours. Voilà, j'ai commencé par le troisième.
Oui.
C'est le deuxième
concours. Non, mais c'est juste qu'on fasse un peu de pédagogie, voilà. Parce que je le disais, on ne sait pas tous.
Il y a un concours externe, il y a un deuxième concours, comme vous dites, qui est le concours des fonctionnaires, des hommes et des femmes qui ont une expérience professionnelle, qui ont été confrontés à des réalités professionnelles. Et puis il y a un troisième concours. Il y a même un quatrième concours maintenant qui est réservé à des docteurs d'université. Donc, ce qui est fantastique à ALENA, c'est qu'il y a un brassage. Alors, il faut qu'après, les uns et les autres puissent avoir les mêmes chances et les mêmes opportunités de carrière. Mais je crois que c'est un point que Frédéric Thirier traite dans son rapport en voulant revigorer, on va dire, la voie professionnelle, qui est une voie aujourd'hui en difficulté, qui est une voie un petit peu sur le recul et qui mérite d'être relancée.
Alors Frédéric Thirier.
Il y a des chiffres qu'on ne peut pas ignorer, malheureusement, un peu dans le sens de ce que dit Lisa. Aujourd'hui, 80% des élèves de l'ENA, mais j'attaque pas l'ENA, j'en suis moi-même issu. Mais 80% des élèves de l'ENA, 80% des élèves de l'école polytechnique sont issus des classes supérieures les plus favorisées. Il n'y a que 20% de femmes, de filles à l'école polytechnique, 30% seulement à l'ENA au concours externe. Tous les jeunes brillants des lycées de province sont obligés de monter à Paris pour préparer ces concours. Est-ce que c'est cela que l'on veut? Non. Il faut plus de recrutement diversifié socialement, territorialement et par sexe. C'est ce que l'on essaie de proposer.
Daniel Keller, ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que l'ENA a été créée par le général de Gaulle précisément pour démocratiser le recrutement de la haute fonction publique à l'époque, c'est ça?
L'ENA a été créée pour donner à la République ce que j'appellerais à la République renaissante après la Deuxième Guerre mondiale de nouveaux hussards noirs. Bon, c'était plus les instituteurs de Charles Péguy, c'était les administrateurs civils de la République à reconstruire. Bon, certainement que l'échec de l'ENA, c'est d'une certaine façon le fait qu'on n'a pas su s'occuper de ces administrateurs interministériels qui finalement n'ont pas été au cœur comme ils auraient dû l'être de la promotion professionnelle à laquelle ils pouvaient aspirer. Bon, c'est une chose. Maintenant, je suis d'accord avec Frédéric Thirier, il faut diversifier le recrutement au plan territorial, au plan social. Il va falloir simplement y mettre les moyens, parce que si on veut créer une vingtaine de classes préparatoires un peu partout en France, eh bien ça va avoir un coût. Il faudra que le gouvernement ait le courage d'en assumer la charge.
Alors, nous sommes en ligne avec Nassim Larfa, qui est un ancien élève de Sciences Po Paris, ancien président de l'association Ambition Campus. Bonsoir Nassim Larfa.
Bonsoir.
Le constat que fait Frédéric Thirier sur la nécessaire diversification des étudiants qui arrivent à l'ENA, c'est précisément ce que vous souhaitez vous aussi et que vous avez fait?
Oui, c'est ce qu'on a réalisé. Tout d'abord, bonjour à Monsieur Thirier et merci pour votre rapport. Il était très attendu, nous on l'attendait tout du moins avec impatience. En effet, ce qu'on a réalisé, nous, c'était dans un autre cadre, c'était celui de Sciences Po Paris, notamment à travers la Convention d'éducation prioritaire.
Pour vous, Nassim Larfa, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est agir en amont, parce qu'en fait, l'ENA, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qui arrive au bout du bout.
Bien évidemment, l'ENA intervient en général après un master. On sait les chiffres de l'enseignement supérieur avec la sous-représentation des enfants d'ouvriers. Nous, on intervient en classe de terminale. Autant dire que déjà en classe de terminale, c'est peut-être déjà trop tard en réalité. On arrive à sauver quelques destins. Mais quand on voit le nombre d'enfants d'ouvriers en classe de terminale, je parle des premières et des terminales générales, finalement, le match est déjà joué à ce moment-là. Donc l'ENA intervient encore plus tard, en fin de course.
J'imagine que quand vous arrivez devant une classe, il y a même un certain nombre d'élèves qui ne doivent même pas savoir ce qu'est l'ENA.
Oui, il y a un problème d'information, bien évidemment. L'ENA n'est pas encore connu. Après, en revanche, il y a vraiment une volonté chez beaucoup d'élèves de servir l'État. Donc il y a vraiment une attirance pour les métiers de la haute fonction publique. Après, les chemins pour y arriver, les épreuves pour y arriver, ça reste encore quelque chose qui semble assez inaccessible pour beaucoup d'élèves.
Pour vous, quelle serait la priorité? Ça se joue à quoi? C'est surtout sur la fameuse culture générale qu'il faut travailler?
Alors, je ne pense pas que la culture générale soit l'alpha et l'oméga d'une réussite des concours. En effet, il y a la préconisation de supprimer l'épreuve de culture générale, mais finalement, vous savez, l'épreuve de culture générale, elle revient par d'autres manières. Elle revient lors d'oral, lors de différentes épreuves écrites, etc. Mais il y a vraiment des modalités qui, dans ce rapport, me font penser qu'on va vers la bonne direction. Par exemple, les 20 classes préparatoires gratuites qu'on souhaite mettre en place sur tout le territoire. Ça, c'est des modules qui permettront d'apporter une meilleure information, de rendre l'ENA accessible et surtout d'apporter une aide personnalisée à beaucoup d'élèves.
Merci beaucoup Nassim Larfa. Je vais passer la parole à Frédéric Thirier pour qu'il nous détaille ces propositions. Frédéric Thirier, l'idée c'est quoi? C'est d'aller chercher les candidats potentiels partout où ils peuvent se trouver, dans toutes les régions?
Moi, ce que j'ai observé, après avoir, avec mes collègues de la mission, nous avons entendu 270 personnes, c'est quand même beaucoup de monde, de tous les milieux, hein. C'est qu'il y a trop de jeunes extrêmement méritants, soit dans les quartiers, soit dans les zones rurales, qui ne savent même pas ce que c'est que l'ENA, et qui n'imaginent même pas qu'un jour ils pourraient passer les concours administratifs pour devenir haut fonctionnaire. Il faut remédier à cela. Donc ce que nous proposons, simplement, et là encore une fois, c'est pas une critique contre l'ENA, et je pense qu'avec Daniel Keller on sera d'accord, ça n'est pas la faute de l'ENA, c'est la faute d'un système éducatif qui, depuis l'école primaire...
joue sur la compétition.
Mais voilà, et pas toujours sur des bons critères. Hein. Donc il faut faire émerger ces nouveaux talents qui sont partout. Donc l'idée, c'est de créer, soyons très concrets, hein, 20 classes préparatoires que j'appelle « égalité des chances ». Une au moins dans chaque région, y compris l'outre-mer, n'oublions pas l'outre-mer, financée par l'État et pas par les écoles, parce qu'il n'est pas juste que ce soit les écoles qui financent ces classes préparatoires. Et dans ces classes préparatoires, les jeunes les plus brillants, sélectionnés sur leur dossier académique et en fonction, bien sûr, de leur niveau de revenu, ce sont des boursiers essentiellement, seraient formés, préparés, de manière très intensive, par des bons professeurs, avec des tutorats, des hauts fonctionnaires qui viennent les aider, seraient préparés au concours administratif. Ça fait 20 classes, 400 élèves, 400 candidats potentiels, nouveaux, de nouveaux talents à la haute fonction publique.
Des classes spéciales avec un concours spécial?
Alors, ça c'est une autre proposition que je formule, mais qui n'est pas nécessairement liée à la première. C'est une option, oui. Je propose que ces élèves très méritants, de niveau modeste, aient un concours spécial, un nombre de places limité, comme l'a souhaité le Conseil d'État dans un avis très important de l'année dernière. En gros, 10 à 15% des places seraient réservées à ces élèves très méritants. Mais, j'insiste là-dessus, avec les mêmes épreuves que pour les étudiants du concours normal, entre guillemets.
Qu'en dit le président de l'Association des anciens élèves de l'ENA, Daniel Keller?
Non, mais je crois que c'est un objectif qu'on ne peut, enfin, de mon point de vue, qu'on ne peut que soutenir. Encore une fois, multiplier les classes préparatoires à travers la France, c'est une très bonne chose. Il en existe deux, pour l'instant. C'est l'ENA qui les a mises sur pied à Paris, à Strasbourg. Bon, deux, ce n'est pas suffisant. 20, évidemment, ça permettra des résultats bien meilleurs. Je pense qu'il faut aussi, comme le dit Frédéric Thirier, avoir la passion de l'excellence, c'est-à-dire que les jeunes qui sont issus des banlieues ou des territoires ruraux, ils ont envie d'être traités comme tout le monde, selon les principes de la méritocratie républicaine, d'avoir les mêmes épreuves, les mêmes concours. S'il faut transitoirement mettre en place un concours spécial, pourquoi pas? Parce qu'il faut bien amorcer la pompe. Sinon, dans 15 ans, on y sera encore et on se dira qu'il n'y en a toujours pas. Donc il faut savoir, à un moment donné, se confronter aux principes de réalité. Mais j'ajouterais, pour reprendre ce que disait notre camarade d'Ambition Campus, c'est que ces jeunes, il y a beaucoup de hauts fonctionnaires, anciens élèves de l'ENA, qui se mobilisent en marge de leur travail pour aller faire du tutorat dans les lycées ou dans les collèges. Parce qu'il faut aller les repérer dès le collège. Parce qu'effectivement, si on attend le baccalauréat, ça risque d'être déjà un peu tard et on découvre qu'ils sont aussi bons que les autres.
Patrick est dans la Drôme et il attend au Standard de France Inter depuis quelques minutes, déjà depuis 17 minutes. Bonsoir Patrick.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à vous.
Oui, je vous remercie pour votre émission qui est toujours de très bonne qualité. Hein. Voilà, donc je vous téléphonais pour mon expérience à l'étranger. Donc j'ai fonctionné pendant 12 années en Suisse, donc à un niveau assez haut en fait, puisque pour un canton, si vous voulez, j'étais secrétaire général du médico-social. Donc je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses. D'abord, qu'il y a le fait de sortir d'une école en France, c'est une certaine arrogance. Par exemple, j'assistais donc à l'embauche d'un directeur d'hôpital en Suisse, dans le canton de Vaud, qui sortait de l'école de Rennes, l'école de santé de Rennes, où il y a vraiment, c'est très élitiste, et ces gens-là, en fait, sortent avec un diplôme et ils seront directeurs d'hôpital toute leur vie. Quasiment, hein, voilà. Ensuite, concernant les grandes écoles, vous vous présentez, par exemple, je sais pas, à Berne, avec un diplôme de l'ENA, on vous regarde, bon, qu'est-ce que vous avez comme expérience, etc. Mais on n'est pas impressionné par ce genre de choses. Alors que nous, on a ce côté-là, Polytechnique ou ENA, par exemple, qui, en fait, donne une espèce d'assurance. La personne qui s'est présentée, donc, à l'hôpital, en fait, elle a été rejetée, non pas pour sa compétence, mais elle a été rejetée pour son arrogance, parce qu'elle a parlé pendant quasiment 20 minutes de son diplôme de Rennes. Voilà. Et je crois que le grand mal vient de là, et je pense que les formations en Allemagne ou en Suisse, par exemple, ou dans d'autres pays, et même en Belgique, je crois, c'est plutôt universitaire, où là, on a des gens, d'abord un brassage à l'université, il n'y a pas le côté entonnoir avec un concours, etc. Et on a beaucoup plus de diversité avec vraiment des compétences. Voilà.
Merci.
Et je crois qu'il faut, oui, faut être un peu modeste.
Merci, voilà, beaucoup Patrick pour cette intervention. Nos grandes écoles, Frédéric Thuriez, c'est une particularité française, reconnaissons-le. Mais
ce qui est très intéressant dans ce que dit Patrick, c'est que ça permet de ne pas parler que de l'ENA. Parce qu'en France, on focalise toujours sur l'ENA, qui est une espèce de symbole historique, je comprends, mais il n'y a pas que l'ENA.
Et d'ailleurs, votre rapport ne porte pas que sur l'ENA.
Mais c'est ce que j'allais vous dire. Mon rapport porte sur au moins 7 écoles, j'allais dire même 10. 7 écoles, parce qu'il y a bien sûr l'ENA, mais il y a aussi ce dont parlait Patrick, l'école des hautes études en santé publique. Il y a l'école qui forme les administrateurs territoriaux. Il y a l'école des commissaires de police. Il y a l'école nationale de la magistrature. Il y a l'école des directeurs des services pénitentiaires. Et il y a les écoles d'application de l'école polytechnique qui forment nos ingénieurs de l'État. Donc c'est important de ne pas oublier qu'il n'y a pas que l'ENA. Après, ce que dit Patrick, je dirais, je le partage. L'arrogance, c'est pas très gentil de dire ça, mais je pense du coup qu'il faut qu'on revoie les modalités des épreuves, des concours, pour qu'on ait des concours un peu moins académiques et un peu plus pratiques, à base de mise en situation individuelle, où on mesure pas seulement les forts en thème, mais aussi des gens qui ont des talents humain. Vous savez, je me souviens, j'oublierai jamais ce que disait Michel Debré, pardon, et je veux pas m'étendre trop là-dessus. Michel Debré, en 1945, disait, et j'adore cette formule, il y a 4 vertus qu'on attend d'un haut fonctionnaire. Le sens de l'État, bon, ça va de soi, je pense que tous nos hauts fonctionnaires l'ont. Mais il y en a aussi 3 autres. Le sens de l'humain, parfois, franchement, ça manque. Le sens de la décision, savoir décider, et quand on se trompe, le reconnaître. Et le sens de l'imagination. Et c'est peut-être ça le plus important. Je suis contre le conformisme idéologique. Il faut que nos hauts fonctionnaires de demain soient plus créatifs, plus imaginatifs.
Alors Frédéric Thierry, on va revenir sur ce que vous proposez pour toutes ces grandes écoles, puisque vous proposez un tronc commun, on va en parler. Mais je voudrais juste avoir la réaction de Daniel Keller sur ce que nous disait notre précédente auditeur. Et parce que quand même, vous avez fait l'ENA plus l'école normale supérieure, donc vous êtes bien placé pour en parler. Il y a quand même un côté carte de visite, assurance tout risque avec ces grandes écoles en France, on peut le dire.
Je ne vais pas singer Pierre Bourdieu, mais les diplômés des grandes écoles constituent une noblesse d'État. C'est vrai. Bon, la France s'est construite comme ça. Bon.
On regarde les pages nécro du Figaro, voilà, et du Monde, on y fait référence.
C'est notre modèle. Et c'est vrai que, moi, c'est le souvenir que j'ai gardé quand je suis sorti de l'ENA, c'est que on est tout de suite mis dans des positions de commandement. Pas forcément des positions de commandement, mais on est tout de suite mis dans des positions de commandement.
Y compris à 30 ans?
Y compris à 30 ans. Et je pense que l'administration gagnerait à ce que ses hauts fonctionnaires commencent par mettre les mains dans le cambouis. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans la culture administrative, a fortiori quand on sort de l'ENA. Donc, il faut, à un moment donné, se mettre les mains dans le cambouis et les pieds dans la boue pour comprendre ce que c'est que la vraie vie. Ça, c'est vrai. Je crois que c'est quelque chose qui peut résulter de la réforme réforme esquissée.
Alors, on va détailler, Frédéric Thirier, dans un instant, ce que vous proposez pour toutes ces écoles. Mais on va prendre d'abord Cécile, qui est à Nanterre. Bonsoir, Cécile.
Bonsoir.
Dites-nous tout.
En fait, j'avais une vraie question. Je m'inscris un peu en faux par rapport à ce que disait votre interlocuteur tout à l'heure sur le fait que c'était une évidence, le sens de l'État, pour une partie des gens qui passaient par ces institutions. J'ai le sentiment vraiment très fort, et je pense ne pas être la seule à observer ça, qu'une partie des gens qui vont être des grands cadres de la fonction publique ont en fait se servent de ces administrations-là, de ces écoles-là, comme d'un tremplin avant d'aller pantoufler dans des entreprises privées. Et qu'en attendant, ils donnent des gages, et encore des gages, pour bien montrer à quel point leur libéralisme va être efficace pour détruire l'État, plus que pour le construire. Et ça, je pense que c'est pas forcément lié à un problème de recrutement, mais je pense que vraiment, l'idée de dire la force publique doit s'imposer, y compris contre des intérêts privés, j'aimerais être aussi convaincue que votre interlocuteur que c'est encore à l'œuvre.
Eh ben, on va poser la question à Daniel Keller, qui a fait l'ENA et qui est allé travailler dans le privé aussi, hein, après tout.
Oui, je suis dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, dans un groupe de protection sociale qui est un groupe à but non lucratif.
Non, mais c'est pour dire que tous les, voilà, toutes les personnes qui sont formées par l'ENA ne restent pas dans
absolument
la haute fonction publique.
Absolument. Non, je crois que madame pose une question qui me paraît importante. C'est un point de désaccord que j'ai avec la démarche qu'a suivi Frédéric Thirier, c'est que aujourd'hui, le divorce entre les élites et le peuple, entre, voilà, on pourrait dire, c'est le sentiment, à tort ou à raison, que les gens peuvent avoir, que les dirigeants manquent d'exemplarité. Voilà. Et ça, c'est un peu l'argumentaire de Vincent Jauvert dans Les Intouchables et Les Voraces. Alors, peut-être est-ce faux, mais dans ce cas-là, il faut être en capacité de démontrer que c'est faux. Et si c'est vrai, il faut s'attaquer au vrai problème. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, c'est qu'aujourd'hui, quand on est un haut fonctionnaire et qu'on se lance dans la vie politique, les gens ne comprennent plus que bah, finalement, on ne soit pas obligé de démissionner. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est le système anglais d'ailleurs où on est obligé de démissionner.
Il y a quelques politiques qui donnent l'exemple et qui démissionnent.
Il y a quelques politiques, le président de la République en a donné comme exemple, donc il faut le
Bruno
rappeler.
Bruno Le Maire a fait la même chose.
Mais voilà, mais très peu quand même. Donc c'est clair que aujourd'hui ça, les gens ne le comprennent pas. Quand vous êtes dans le privé et que vous devenez député, bah vous perdez votre emploi, et puis après, bah quand vous cessez d'être député, vous devez retrouver un emploi. Donc je crois qu'il y a quelques mesures qui ne sont pas que des mesures symboliques, qui me semblent importantes. Pour qu'effectivement les gens n'aient pas le sentiment que ceux qui les gouvernent vivent dans un autre monde.
Je crois que c'est aussi le fait que les étudiants de l'ENA et d'un certain nombre d'écoles, peut-être même toutes, je ne sais pas, vous allez me le dire, sont payés, hein, pour leur formation. Ils disent,
comme les élèves de l'école normale supérieure, parce que nous sommes fonctionnaires stagiaires. Voilà, et donc ça fait partie de du statut.
Et ça, Frédéric Thirier, c'est...
Alors moi,
c'est
je vais prendre
important.
Un peu la défense des hauts fonctionnaires. Ça va peut-être vous surprendre, mais je vais vous le lire sincèrement. En France, on a une haute fonction publique qui est globalement d'abord de très bonne qualité. Faut le reconnaître. D'ailleurs, à l'étranger, elle est reconnue comme telle. Et ce sont des gens qui, contrairement à ce que j'entends ici ou là, sont des gens intègres et dévoués et qui travaillent pour des rémunérations qui sont en moyenne de 50% inférieures à celles du secteur privé. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, je ne veux pas nier les problèmes, hein. Je pense que on a une énorme réforme à faire pour rendre cette haute fonction publique plus diverse et un peu plus représentative de la société française, pour que les Français s'y reconnaissent davantage. Aujourd'hui, ils ne s'y reconnaissent pas.
Nous avons en ligne Fabien Tasté, qui est président de l'Association des hauts fonctionnaires territoriaux. Bonsoir à vous.
Bonsoir et bonsoir à Frédéric Thiriez et à Daniel Keller.
Alors, on vous écoute, Fabien Tasté, sur ce dévouement de la haute fonction publique, sur cette intégrité des hauts fonctionnaires.
Frédéric Thiriez a raison de rappeler qu'en France, et il l'a dit, c'est reconnu à l'étranger, nous avons une bonne haute fonction publique. Et je pense que l'idée, pour reprendre une formule célèbre d'un ancien ministre de François Mitterrand, n'est pas de passer de l'ombre à la lumière. Notre haute fonction publique, elle a des qualités, mais il faut aussi, et c'est aussi l'exercice que doivent faire les hauts fonctionnaires eux-mêmes, il faut aussi qu'on soit lucide sur les limites du système actuel. Et il y a trois enjeux. Alors, vous les avez parfaitement abordés, en tout cas au moins les deux premiers. Il y a un enjeu qui consiste à faire que les hauts fonctionnaires ressemblent davantage à la société. Vous l'avez beaucoup abordé, j'y reviens pas et je souscris à tout ce qui a été dit. Et les mesures d'égalité des chances qui sont dans le rapport de Frédéric Thirier vont dans le bon sens. Le deuxième enjeu, c'est qu'on ait des hauts fonctionnaires qui soient davantage en prise avec la réalité de terrain. On entend les Français nous dire ils ne connaissent pas. Alors c'est encore une fois, il ne faut pas être dans la caricature et dans le poncif. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, on peut progresser et là aussi dans la formation, dans l'accès au grand corps. Ce que propose Frédéric Thirier permet d'intégrer une dimension opérationnelle dans le parcours des hauts fonctionnaires et ça va dans le bon sens. Et puis il y a un troisième sujet que vous avez pas beaucoup abordé, c'est que notre haute fonction publique, en fait, c'est une combinaison de grandes familles. Vous avez les hauts fonctionnaires d'État, vous avez les hauts fonctionnaires territoriaux, dont je suis, et puis vous avez les hauts fonctionnaires de l'hôpital. Et c'est vrai que ce sont des grandes familles qui ne travaillent pas assez ensemble aujourd'hui. Et ça n'est pas tout à fait, d'ailleurs, sans lien avec les fractures du pays. Vous voyez que les Français dénoncent souvent les bisbilles nombreuses entre le pouvoir central, Paris, les territoires, il y a une crise de l'hôpital. On a l'impression que les trois grandes sphères de l'action publique, l'hôpital, l'État, les territoires, n'arrivent jamais à bien travailler ensemble. Et quelque part, parce que les hauts fonctionnaires qui servent chacune de ces trois sphères jouent un peu dans leur coin, quelque part, cette situation, elle s'explique par l'état de notre haute fonction publique. Et si, pour faire plaisir à Frédéric Thirier, je voulais filer la métaphore footballistique, je dirais que notre haute fonction publique, c'est des défenseurs qui se font la passe entre eux, c'est des milieux de terrain qui se font les passes entre eux, et c'est des attaquants qui se font les passes entre eux. Et une équipe qui joue comme ça, c'est pas forcément une équipe qui gagne.
Je crois que ça lui plaît pas mal. Hein. Merci voilà. Beaucoup. Merci beaucoup.
Ça me plaît bien.
Pas bien d'asté. Oui. Mille fois merci pour votre intervention. Ça vous plaît, hein, cette
image. Ah bah, j'adore les métaphores footballistiques. Vous savez, le football, c'est la vie, hein, ouais. Comme disait Camus. Hein. Là où Fabien Tasté a raison, c'est qu'on a en France trois fonctions publiques. On ne doit pas dire ça, on doit dire trois versants, mais il y a trois fonctions publiques. L'État, la territoriale, l'hospitalière. Il faut qu'on construise des ponts entre ces trois fonctions publiques. C'est pourquoi dans mon rapport, je propose...
Un tronc commun.
D'abord un tronc commun en tout début de formation, où toutes les fonctions publiques se retrouvent ensemble... de l'énarque à l'administrateur territorial, au commissaire de police, au directeur de prison.
Jusqu'aux magistrats qui ont beaucoup de mal à comprendre pourquoi on veut les faire marcher au pas dans un truc en plus militaire hein, que
alors,
vous proposez.
Alors, il ne s'agit pas de faire marcher les magistrats au pas.
On a pas mal de mails là-dessus, hein, et il y a eu des protestations.
Mais j'ai eu aussi beaucoup de discussions avec les différents syndicats de magistrats. Certains s'étonnent que... Et je l'admets, les magistrats ne sont pas des hauts fonctionnaires, on est tous d'accord là-dessus, et il n'est pas question de porter atteinte à l'indépendance des magistrats. Mais, sincèrement, entre nous, je ne vois pas en quoi le fait de faire 6 mois de formation commune avec des commissaires de police, des futurs énarques, des directeurs de prison, porterait atteinte à l'indépendance de la magistrature. Je n'y crois pas, ça n'est pas sérieux. Donc, il faut que nous réunissions tous ces gens ensemble. Et, pardon, en cours de carrière, j'ai proposé que l'on crée un institut des hautes études du service public où, là encore, après en gros 10 ans de carrière, tous les hauts fonctionnaires de toutes les fonctions publiques, y compris les magistrats, puissent se retrouver pour suivre une formation de très haut niveau pour accéder aux emplois supérieurs.
Ouais. Tout le monde dans le même.
Décloisonnons. Arrêtons l'esprit de caste.
Tournons sur le même terrain, dans le même vestiaire. Hein. C'est bien vous, Frédéric Thirier.
Le téléphone sonne.
Cette fois, c'est José qui est à Saint-Cyr-sur-Mer. Bonsoir, José.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir tout le monde. Et oui, alors moi, je suis assez surpris lorsque le président Macron a dit que toute réforme de l'ENA était impensable et vouée à l'échec. Ça me semblait suggérer qu'il fallait supprimer l'ENA. Et dans la foulée, je me disais, pourquoi pas supprimer l'ensemble des grandes écoles et rendre aux universités la formation des élites, comme ça se pratique, comme l'a dit un précédent intervenant, en Suisse, en Allemagne et dans bien d'autres pays. Ou alors, on conserve, parce qu'évidemment, le fait de proposer des classes préparatoires, moi qui suis normalien, qui ai intégré par... un candidat libre. Mais j'ai vu, c'est la différence entre des gens qui ont l'expérience de la vie, comme moi, qui avaient l'expérience de la vie, qui étaient fils de coiffeur et qui travaillaient l'été pour gagner leur truc, et Fabius, par exemple, mon ami de la même promotion, qui était, lui, issu d'un autre milieu. Et donc, je me dis qu'effectivement, bon, mettre des classes préparatoires, c'est perpétuer le système. Donc, ou alors, on fait ce qui m'avait permis, moi, d'être normalien, c'est-à-dire d'être recruté à 11 ans dans le meilleur lycée de Marseille, où j'ai pu fréquenter des gens qui avaient un capital culturel remarquable et qui m'ont aidé poursuivre des études, effectivement, d'élite.
Merci. Donc, voilà. Oui, José, merci beaucoup pour cette question. J'ajoute que vous n'êtes pas tout seul à poser ce genre de questions. Il y a Jean-Michel aussi qui nous dit « Changer l'ENA sans remettre en cause le système des classes préparatoires et des grandes écoles, c'est continuer à ne rien changer du tout. » Frédéric Thirier, on en revient à ce qu'on disait au début, il faut agir en amont.
Non, mais bien sûr, il faut agir en amont. Et d'ailleurs, lorsque j'ai rencontré M. Blanquer, c'est la première chose que je lui ai dite, c'est que il ne faut pas rendre les grandes écoles responsables de l'effet de surreprésentation des classes favorisées. Tout se joue bien avant. Mais en même temps, et c'est peut-être un point qui nous sépare avec Daniel Keller, c'est que ce fait ne dispense pas les grandes écoles de faire les efforts nécessaires pour diversifier le recrutement et l'améliorer. Après, ce qu'a dit José va, à mon avis, bien au-delà. Et c'est une question que je me suis posée, que nous nous sommes posés au sein de la mission. C'est, après tout, faut-il une école pour former les hauts fonctionnaires? Après tout, ça ne va pas de soi. Dans certains pays comme l'Angleterre, on recrute les hauts fonctionnaires avec un concours, mais il n'y a pas ensuite d'école pour former ces hauts fonctionnaires. Ils se forment sur le tas. Ça existe comme formule. Je l'ai écarté, pourquoi? Parce qu'il me semble que l'excellence française, qu'il faut quand même souligner ici ce soir, pas seulement depuis 1945, création de l'ENA, mais depuis 1794, création de l'école polytechnique, elle est due tout de même à ces écoles qui amènent ces jeunes au plus haut niveau possible. Alors après, il s'agit d'améliorer, de créer une nouvelle ENA, et c'est ce que nous proposons, qui n'a plus rien à voir avec l'ENA actuelle, puisque, comme vous le savez sûrement, je propose que l'ENA, qui actuellement est une petite école, hein, disons-le, une petite école avec 80 élèves par an, passe à 230 élèves, soit désormais un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, donc je rejoins la question sur les liens avec l'université, avec moitié d'administrateurs de l'État et moitié d'ingénieurs de l'État. Ce sera une super, magnifique, grande école.
Daniel Keller, qu'est-ce que vous en dites? Il faut recruter plus de monde de toute façon, parce que c'est descendu trop bas.
L'ENA a souffert depuis de nombreuses années d'une sorte de rétrécissement qui fait qu'aujourd'hui, avec 80 élèves par an, bon, enfin 83, c'est son avenir même qui était fragilisé, c'est évident. Donc l'idée que cette école doit retrouver la surface qu'elle a eue d'ailleurs par le passé, c'est indispensable. Alors après, université ou grandes écoles, je crois que c'est les grandes écoles, c'est le génie français. Bon. Après, une grande école de service public, c'est fait pour justement pour acquérir les valeurs du service public, le sens de l'État, c'est ce que vous disiez en début de débat. Ça ne sert pas à rien. Je crois que c'est aussi intrinsèquement lié à la manière dont s'est construite la République et à la façon dont on veut la promouvoir.
Frédéric Thirier, qu'est-ce que vous proposez pour qu'il y ait un peu plus de parité, pour qu'il y ait un peu plus de femmes à l'ENA? Je disais tout à l'heure, je citais ce qu'a publié Le Monde aujourd'hui, ces lettres rapports confidentiels qui dénoncent harcèlement, discrimination, une direction majoritairement masculine qui aurait un comportement sexiste. Voilà, on en est là pour l'instant. Il paraît qu'il y a une cellule d'écoute indépendante qui serait bientôt mise en place. Qu'est-ce que vous proposez, vous, en tout cas, pour faire avancer les choses de ce côté-là?
Je ne me prononcerai pas sur l'effet de harcèlement moral ou sexuel que j'ignore. J'ai pris connaissance, comme vous, de ce rapport dans la presse. En revanche, j'ai deux choses à dire. D'abord, sur la présence des femmes. On est très en retard aujourd'hui sur la féminisation des emplois supérieurs dans la fonction publique. Je propose, par exemple, que sur une année, un emploi de direction sur deux soit réservé, soit confié à des femmes. C'est un engagement sur lequel le gouvernement, en l'état actuel des choses, m'a donné son accord. C'est une mesure qui est, à mon avis, importante. Mais je veux revenir un instant sur le rapport de la promotion Molière que j'ai lu comme vous. Ce que j'ai retenu surtout, c'est la question du classement de sortie. Car ce rapport rejoint tout à fait mes propositions sur la suppression du classement de sortie. Pourquoi ?
Parce que c'est la compétition permanente, c'est
mais ça, surtout, ça n'est pas une mesure démagogique et ça n'est pas pour diminuer le niveau de l'école. Pourquoi supprimer ce classement de sortie ? D'abord, l'ENA est une des seules écoles au monde à avoir un classement de sortie. Il reste l'école polytechnique, mais l'école polytechnique elle-même est en train de réfléchir à la suppression du classement de sortie. Pourquoi ce classement de sortie est mauvais ? Pour deux raisons. La première, c'est que les élèves ne sont pas accessibles à la moindre formation pendant les deux ans qu'ils suivent à l'ENA. Ils ne pensent qu'au classement de sortie. Deuxième chose, la procédure d'affectation n'est pas bonne. Choisir son corps en fonction de son classement ne vous garantit absolument pas que le profil de l'élève correspond au profil dont a besoin l'administration. Voilà, je propose un système de rapprochement des offres et des demandes en fin de scolarité.
Alors, l'émission est déjà bien avancée. Malheureusement, on ne va pas pouvoir prendre Lucille qui est à Marseille, mais je voudrais quand même vous transmettre la question qu'elle nous pose au standard de France Inter. Toutes ces grandes écoles sont très intéressantes, dit-elle, mais les programmes sont-ils adaptés au monde actuel avec tous les problèmes sur le climat, par exemple? Est-ce que vraiment on forme les gens à ces nouvelles contraintes de la vie d'aujourd'hui, Daniel Keller?
L'ENA a engagé d'ailleurs une transformation du contenu de ses enseignements, et je ne suivrai pas forcément Frédéric Thierry sur le chemin de l'abolition du classement de sortie. Ce que je crois, c'est que le classement de sortie est très mal fait. Et ce qui est en cause, c'est la manière dont ce classement est construit, parce qu'il est construit à partir de savoirs académiques. Bon. Et d'ailleurs, ça va poser un problème, parce qu'on a toujours un classement de sortie sur des savoirs académiques, et d'un autre côté, une école qui met en place des enseignements sur la question du climat, la question de la gouvernance, et des sujets qui sont évidemment les sujets qui nous préoccupent aujourd'hui. Donc là, il y a un travail de fond à engager pour rendre les choses plus convenables.
Voilà, donc ce travail, il va se faire, Frédéric Thierry. Non, un petit mot, parce que vous avez fait des propositions. Matignon a réagi à la vitesse de l'éclair, hein, quelques heures à peine après.
Mais c'est formidable, voilà. J'en suis très heureux.
En disant ce qui était recevable ou pas, il y a des ministres qui vont plancher sur le sujet, on devrait en savoir plus quoi fin avril.
Tout à fait, le Premier ministre a désigné 4 ministres, si j'ai bien lu, qui vont plancher pour aboutir aux réformes nécessaires. Ce que je veux dire sur ce qu'a dit Lucille au téléphone de France Inter, elle a évidemment raison.
Vous avez 20 secondes. Hein.
20 secondes, ouais. Plein de sujets qui manquent. L'Europe. On est très mauvais.
Même, l'ENA ne s'occupe pas de l'Europe. Au secours.
On est très mauvais en termes européens. On est très mauvais sur les problèmes climatiques. On est très mauvais sur les relations sociales et syndicales. On est très mauvais sur le management et les ressources humaines. Pourquoi ? À cause du classement de sortie. C'est pour ça que je propose de le supprimer.
Merci beaucoup Frédéric Thierry. Je renvoie à votre rapport qu'on peut trouver sur Internet.
Sur le site du gouvernement.
Absolument. Un grand merci à vous, Daniel Keller. C'est vous allez avoir le mot de la fin. Vous avez 5 secondes pour la priorité des priorités pour vous.
La priorité des priorités, c'est réconcilier les Français avec leurs dirigeants et leurs hautes fonctions publiques.
Voilà, on va essayer de
profiter. Et on est d'accord.
Et vous êtes d'accord. C'est formidable. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont appelés. Merci aux standardistes de l'émission, à Mel Meyer qui a lu vos mails et vos tweets. Merci à Juliette Medeviel qui a réalisé cette émission, à Pierre Dessertaines qui a préparé tout le 18-20 ce soir. Merci aussi à Clément Berman, Michel Bézikian, Johanna Gabric. La semaine prochaine, qu'on se le dise, on sera au Salon de l'Agriculture.